Vous écoutez la Deutsche Welle.
Tout simplement parce que j'avais levé un lièvre, en quelque sorte, c'est-à-dire une situation très problématique dans laquelle ce sont des consultants qui sont payés par la MINUSCA pour effectuer la stratégie de poursuite et le plan d'enquête du bureau du procureur de la Cour pénale spéciale. Or, la MINUSCA est un acteur au conflit actuellement en Centrafrique. Et la CPS a pour mandat d'enquêter sur tous les crimes commis depuis 2003 sur son territoire. Un certain nombre de ces crimes ont été commis par la MINUSCA. Et donc on se trouve dans une situation très problématique dans laquelle la CPS n'aura pas l'indépendance suffisante pour enquêter sur les crimes de la MINUSCA. Ou en tout cas, la question de son indépendance est posée. Et c'est la question que j'ai posée. Et je l'ai posé à la fois publiquement et en privé, et ça m'a valu d'être expulsé du pays dans la foulée.
Oui, donc vous êtes devenu gênant, hein, c'est ça ?
Exactement.
Et selon nos sources, hein, vous avez donc dû quitter précipitamment la RCA et la MINUSCA. Vous aurez également dit, hein, vous aurez notifié oralement que si vous persistez à rester en Centrafrique, eh bien votre sécurité ne serait plus assurée. On vous a dit ça ?
Exactement. Exactement, tout à fait.
Ouais. Et comment est-ce que vous avez perçu ces propos ? C'était des menaces à peine voilées ?
Je pense qu'il y a eu, il y a eu objectivement une volonté de la MINUSCA de se débarrasser de moi le plus rapidement possible, c'est-à-dire la procédure a été menée en secret, aucun responsable ne m'a adressé la parole, il y a eu un blocus complet et tout d'un coup, des billets d'avion ont été pris pour le lendemain de l'annonce de mon renvoi, donc dans une brutalité, une précipitation assez extraordinaire, qui disent beaucoup de la gêne qui s'est emparée de la MINUSCA et de la crainte qu'elle avait que cela remette en question justement ses liens avec la CPS et son intégrité. Et je pense que c'est une méthode qui est d'une part extrêmement brutale et d'autre part extrêmement gênante parce qu'elle met bien en lumière la problématique, en fait. Elle montre bien qu'il y avait en effet un problème et que ce qu'ils voulaient faire, c'était enterrer le problème et ils n'ont pas réussi.
Oui, la MINUSCA invoque l'article 2 du contrat de travail qui vous lie avec elle, hein, pour justifier cette rupture. Ouais. Mais pourtant, un des articles justement indique qu'il ne peut être allé contre l'intérêt des Nations Unies. Et voilà, dispositions également ne parlent pas d'une obligation de réserve qui n'est pas du tout exigée.
Obligation de réserve. L'article est problématique. Car si vous travaillez pour la CPS, qui éventuellement peut poursuivre les forces armées de l'ONU, évidemment, ça peut poser une contradiction, non pas sur la communication, mais en tout cas sur votre travail. Mais pas de devoir de réserve. Par ailleurs, quand même, cette question importante, est-ce que l'on peut considérer que de lutter contre l'impunité, y compris si cela implique de poursuivre des casques bleus, c'est aller contre les intérêts des Nations Unies ? Je ne pense pas. Et je pense que l'interpréter différemment, ce serait très grave. Très grave. Et pour le reste, évidemment, l'absence d'obligation de communication ou quoi que ce soit faisait que cet article n'était pas invocable. Donc on voit bien que le problème n'était pas contractuel, mais politique.
Oui, mais la seule obligation tout de même, Juan Branco, c'est que c'est la nécessaire confidentialité des experts, hein, sur les informations recueillies lors de leur mission.
Qui a été respectée d'ailleurs et qu'il sera, c'est-à-dire que je n'ai utilisé aucune information, je n'ai rendu publique aucune information qui nous avait été donnée dans le cadre de nos missions. Et tout le monde sait ce qui s'est passé le 10 avril à Bangui. Des articles de presse ont été publiés à ce sujet très largement. Des discussions ont lieu dans la ville, au sein de la MINUSCA et ailleurs, de façon récurrente sur cet événement et sur d'autres, que ce soit à Bambari ou ailleurs. Et il n'y avait pas besoin de rompre ce devoir de confidentialité que je considère comme extrêmement important dans des dossiers si sensibles, en effet, pour faire la déclaration que j'ai faite, d'autant plus qu'en tant qu'expert indépendant, il était très important de montrer, c'est pour ça que l'on nous a recrutés, théoriquement, que nous n'étions pas inféodés à la MINUSCA, que nous ne dépendions pas de la MINUSCA, et que nous étions tout à fait capables de mentionner les crimes qui ont été commis par la MINUSCA comme par les autres forces armées, et que nous agirions en totale indépendance, qui visiblement n'était pas le souhait de la MINUSCA.
Oui, mais Maître Blanco, le 25 mai dernier, vous aviez publié un article dans le journal Le Monde sur les forces de l'ONU en Centrafrique, et vous aviez affirmé que le 10 avril dernier, la MINUSCA, les forces de la MINUSCA ont massacré plus de 30 civils et ont blessé au moins 100 autres, sans aucune justification. Vous réitérez ces propos ?
Donc ce n'est pas moi qui ai publié un article dans Le Monde, mais Rémi Ourdan. Moi, j'ai commenté cet article dans lequel Rémi Ourdan parlait d'incidents qui étaient intervenus à Bangui le 10 avril. Et j'ai réagi à cet article en disant qu'on ne pouvait pas parler d'incidents, que ce qui s'était passé, c'était un massacre. Et pourquoi est-ce que j'utilisais le terme de massacre ? Car à partir de 30 morts et plus de 100 blessés dans une zone qui est une zone de population civile, un quartier d'une ville extrêmement dense et peuplée, le fait qu'il y ait une opération de cette envergure, qui n'était en aucun cas justifiée, n'est pas tolérable. Et il n'est pas tolérable qu'il y ait eu volonté ou non, et je ne doute pas du fait qu'il n'y ait pas eu volonté de tuer autant de civils, et qu'il n'y ait pas eu de volonté au départ de provoquer un tel massacre. Mais qu'il y ait volonté ou non, à partir du moment qu'il y a ce résultat, il y a massacre et il y a des comptes à rendre. Or, il n'y a eu aucune démission, aucune mise à pied, une enquête interne et non criminelle qui n'a toujours pas donné de résultat. Et à partir de là, une volonté évidente de masquer la véracité des responsabilités qu'il faut interroger et dont il faut interroger la nature criminelle pour après, dans un second temps, décider s'il y a des inculpations, des mises en examen à avoir. C'est le rôle de la CPS, en toute indépendance, de faire ce travail, et c'était le rôle des experts indépendants d'interroger ces faits et d'essayer de voir s'ils devaient être intégrés dans leur stratégie ou non.
Ouais, donc
le moment que la MINUSCA est intervenue pour nous empêcher de faire cela, je pense que c'est un signe clair et définitif que le travail de la CPS ne pourrait être mené en toute indépendance.
Et donc, vous pensez qu'en agissant ainsi, la MINUSCA se reprocherait certainement des choses, non, suite aux événements du 10 avril dernier ?
Je pense que de façon générale, la MINUSCA est dans une position extrêmement fragile. Les accusations sont nombreuses et depuis de nombreuses années sur de multiples excès commis par leurs forces diverses, leurs compagnons divers. Elle a extrêmement de difficultés à recruter, à récupérer des contingents, beaucoup de difficultés à mener à bien une mission qui est impossible, car son mandat est beaucoup trop important et qu'elle n'a pas d'État sur lequel s'appuyer pour accompagner ses actes. Elle est en somme une institution qui n'est pas politique et à qui on demande de jouer un rôle politique, et donc évidemment il y a des débordements. Et dans cette situation d'extrême tension, la MINUSCA a décidé d'adopter une politique répressive dans laquelle elle agit de façon impulsive et injustifiée pour faire taire tous ceux qui dénonceraient ses excès ou, au contraire, montrer ses muscles quand il ne le faut pas, comme elle l'a fait le 8 ou 10 avril, où, répondant à des provocations venant de PK5 et d'un chef de gang mafieux tel que Force, auquel il n'aurait pas fallu réagir, eh bien, elle a décidé d'élaborer une série d'opérations inutiles d'un point de vue militaire qui a débouché sur le résultat que l'on sait.
On se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, un membre de la MINUSCA, un soldat gabonais, a été appréhendé dans un quartier de Bangui en possession de munitions. Il s'apprêterait vraisemblablement à les vendre à des miliciens musulmans de ce quartier. Est-ce à dire que les soldats de la MINUSCA, et vous l'avez d'ailleurs avoué, ne sont pas du tout fréquentables ?
Pas du tout. Ça veut dire simplement que la force actuelle n'est pas bien gérée. Il y a des problèmes de management en interne, d'une part, c'est évident. Il y a d'autre part des facteurs externes de pression, c'est-à-dire des difficultés à avoir suffisamment de soldats, mais aussi tout simplement à leur donner un cadre clair d'intervention. Quand vous devez remplacer un État et que dans le même temps, vous n'avez pas la possibilité d'agir comme un État et seulement d'avoir que la partie ordre et pour agir, c'est-à-dire la partie militaire, évidemment, vous vous remettez dans une situation complexe qui fait qu'à un moment, ça ne fonctionne pas. Donc, il ne s'agit pas d'indiquer des responsabilités individuelles, mais de pointer un problème structurel d'une mission dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle ne remplit pas ses objectifs.
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contester votre, la rupture de votre contrat?
Oui, une contestation a été établie. En effet, en tant qu'expert indépendant, la situation a choqué. L'ambassade de France a demandé des explications à Bangui et à New York, car au-delà de la question contractuelle, il y a évidemment, encore une fois, je le répète, un respect des principes d'indépendance et d'intégrité qui sont demandés aux personnes qui sont recrutées au sein du système ONU, un respect des principes d'intégrité et d'indépendance de la Cour pénale spéciale, et plus largement, au-delà, une grande question sur sa capacité à mener ses missions, et missions qui sont extrêmement importantes pour le devenir du Centrafrique. Et cette décision impulsive met en danger une institution précieuse qui a mis beaucoup de temps à se construire et qui, aujourd'hui, aura du mal à démontrer sa capacité à agir de façon juste.
Oui, justement, les députés centrafricains ont adopté mardi dernier, à une écrasante majorité, une loi portant donc création de cette Cour pénale spéciale. Est-ce que vous, en tant qu'expert indépendant, vous pensez que cette Cour aura les moyens de sa mission?
Il est essentiel dès à présent que le procureur spécial montre son indépendance par rapport à la MINUSCA en réaction à cette affaire, qu'il mette fin à cette mission de consultance et qu'il élabore de lui-même, avec des moyens propres, en autonomie financement complète, sa stratégie d'enquête et son plan d'enquête, c'est-à-dire qu'il décide par lui-même et non par des personnes payées par la MINUSCA qui est-ce qu'il doit poursuivre comme criminel de guerre et criminel contre l'humanité pour les faits remontant à 2003. C'est essentiel parce qu'à partir de là, c'est la crédibilité de l'ensemble de l'institution qui sera mise en jeu. S'il ne le fait pas, cet argument sera repris et repris dans le cadre des procédures et risquera d'empoisonner et d'empirer la situation plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, les garanties d'autonomie et d'indépendance de cette institution ne sont pas réunies. Ses moyens sont trop limités et son fonctionnement risque d'être mis en grande difficulté.
Dernière question, vous en avez parlé avec les autorités centrafricaines avant votre retour à Paris?
Non, encore une fois, l'ambassade de France a protesté formellement. Elle a envoyé, par le biais de son ambassadeur auprès de la MINUSCA, mais je considère que la Cour pénale spéciale, devant être autonome des autorités, quelles qu'elles soient, politiques, militaires, présentes sur le pays, il ne s'agissait pas d'impliquer le gouvernement dans cette affaire, le gouvernement lui-même pouvant faire l'objet de poursuites de la part de la CPS. Donc il ne s'agissait pas de reproduire la situation que la MINUSCA avait essayé de construire en devenant dépendant d'une autorité pour en échapper à une autre.